Bonjour à vous, François Sarano.
Bonjour.
Merci de passer nous voir avant le sommet des océans à Nice. Grand rendez-vous international, troisième conférence des Nations Unies sur la question. Pour vous, l'océanographe, le plongeur, le compagnon d'aventure du commandant Cousteau et du cinéaste Jacques Perrin, c'est capital ce qui va se passer à Nice.
C'est important. C'est important parce que c'est que la troisième fois qu'il y a une conférence des Nations Unies sur l'océan, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de COP de toutes sortes, même l'intelligence artificielle a eu plus de conférences internationales. Pour une fois, on parle des océans. Et la deuxième chose, aujourd'hui où les peuples et où les pays se parlent de moins en moins, c'est important de réunir les gens autour d'une question qui pourrait les réunir.
Alors, avant ce sommet des océans, vous publiez avec la juriste Marine Calmé, Justice pour l'étoile de mer, vers la reconnaissance des droits de l'océan. Je suis bien évidemment obligé de vous poser la question, pourquoi vous vous inquiétez pour l'étoile de mer?
Mais parce que c'est moi, parce que c'est vous, parce que c'est nous. Il n'y a pas plusieurs biosphères, il n'y a qu'une biosphère qui nous réunit tous. Nous avons tous, les vivants, co-évolué depuis 3,8 milliards d'années. Nous sommes tous intimement liés. Par conséquent, il est important de s'occuper de nous-mêmes, d'une partie de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on ne s'occupe dans les océans que de 150 espèces que l'on pêche et qui sont des ressources, et puis de quelques autres emblématiques comme les dauphins ou les tortues. Mais les autres, les 250 000 espèces décrites et les millions qu'on n'a pas décrites, c'est rien. Donc, comment ajuster nos activités à l'existence de ce qui aujourd'hui n'est rien? Il faut leur donner un droit d'existence. Après ça, on va pouvoir ajuster nos activités. On va pouvoir enfin être dans notre juste place parmi eux.
Alors vous parlez parce que les poissons ne crient pas quand on les écrabouille, parce que les étoiles de mer ne nous regardent pas quand on les démembre, parce que les poissons-lunes n'ont pas d'avocat pour plaider leur cause lorsqu'ils sont pris par dizaines dans des filets qui ne leur sont pas destinés. C'est toute une partie du vivant qu'on a oublié, François Sarano.
Mais pas simplement oublié, on l'a jamais reconnu. On les considère moins que les grains de sable d'une plage. Et donc, s'ils ne sont rien, on n'ajuste pas nos activités.
On ne les protège pas.
On ne protège pas rien. Donc, la moindre des choses, c'est de dire, vous existez. Ok, alors maintenant qu'on a reconnu votre existence, on va pouvoir négocier avec vous. Je n'ai pas dit qu'on allait arrêter de pêcher, j'ai dit qu'on allait essayer de faire mieux, d'éviter les dégâts collatéraux inutiles. Aujourd'hui, pour récupérer quelques poissons, on écrabouille des milliers d'espèces, on détruit des écosystèmes entiers. Et c'est inutile. Et c'est éthiquement inacceptable. Par conséquent, il est nécessaire de se soucier des autres pour enfin pouvoir ajuster notre vie, notre place parmi eux.
La pêche, vous l'avez évoqué à deux reprises depuis le début de cet entretien, c'est la plus grande menace que fait peser l'homme sur l'océan.
Ah, aujourd'hui, oui, clairement. Et le chalutage de fond, clairement, parce qu'il détruit indistinctement tout l'écosystème sur lequel il passe. Quand une chaîne passe sur le fond, l'écosystème est réinitialisé, il est remis à zéro, tout est broyé, tout est détruit. C'est inutile pour récupérer quelques poissons. C'est pas la pêche qui est remis en cause, c'est pas les pêcheurs qui sont remis en cause,
c'est la technique.
Changeons de technique, faisons quelque chose qui soit plus fin, qui sélectionne. Et enfin, nous pourrons être à notre juste place.
En plaidant pour la reconnaissance des droits de l'océan, vous pointez les particularités de chaque espèce des vivants et au sein de chaque espèce, la singularité de chaque individu. On revient à ce que vous nous disiez au début, l'étoile de mer, c'est nous, parce que chaque être vivant est différent. Il y a un peuple méconnu.
Oui. Chaque être vivant est différent. Lorsqu'on travaille proche des êtres vivants comme les cachalots, par exemple, on découvre.
Alors, ça, c'est votre grande passion, bien évidemment, puisque depuis 2013, c'est ça?
Oui.
Vous les côtoyez au large de l'île Maurice, vous avez rencontré une communauté de cachalots, le clan d'Irène Gueule Tordue. Et si elle a un nom, c'est bien parce que vous avez constaté qu'ils étaient tous différents, ces cachalots.
Et bien entendu, chacun a sa personnalité. Chacun, comme nous, les humains, construit son monde propre et donc est différent de son voisin. Il est singulier. Et quand on est singulier, On est irremplaçable. On ne peut pas, comme des boulons, être remplacés l'un par l'autre. Par conséquent, chaque créature vivante, singulière, est irremplaçable. Or, dans notre droit aujourd'hui, les êtres vivants sont considérés comme remplaçables les uns par les autres.
Ce sont des objets.
Des objets qu'on dit fongibles. Pas du tout. Pas du tout. Chacun est singulier. Et il faut les considérer comme chacun d'entre nous. Pas légal. Hein, on va pas demander des droits égaux pour l'étoile de mer et pour les humains. On va demander d'avoir de l'égard, de la considération pour sa vie qui est unique, qui est singulière, et essayer de faire au mieux. On peut faire mieux.
Bon, ils sont tous uniques. Vous qui les côtoyez depuis plus de 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont d'exceptionnel, les cachalots, François Sorano ?
Une société solidaire. C'est d'ailleurs ce que notre société devrait être.
Oui.
Une société dont le personnage central est la babysitter. La femelle qui garde la crèche. Oui, ouais. Ça n'est pas le plus fort, ça n'est pas la matriarche la plus expérimentée. C'est la babysitter qui protège les petits. Et c'est les nounous allaitantes qui s'occupent des petits dont les mères ne peuvent pas allaiter, etc., etc. Solidarité.
Solidarité, singularité. Et dialogue aussi, c'est ce que vous nous apprenez. On dit souvent que vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille des cachalots, mais les cachalots vous parlent aussi, François Sorano.
Ça veut dire rapprochons-nous.
C'est vrai, c'est ça.
Faisons-nous des caresses.
Vous parlez le cachalot aujourd'hui,
non,
François Sorano.
Non, je ne parle pas le cachalot, mais nous avons pu faire le lien entre cette expression sonore et le fait que si l'autre cachalot répond. Alors, ils se rejoignent et se font des caresses.
Donc, ils communiquent entre eux et communiquent avec l'extérieur.
Et oui, une fois, Elliot, le cachalot, est venu me voir du fond de l'océan et pendant 10 minutes, il m'a invité. Il a essayé de tisser des liens avec moi grâce à des attitudes qui sont caractéristiques d'une demande de caresse et en utilisant ses expressions sonores. Il voulait non seulement tisser des liens, mais il voulait m'apprivoiser. Et je vous garantis que c'est bouleversant lorsque tout d'un coup, vous vous rendez compte que nous, les humains, n'avons pas le monopole de l'envie d'apprivoiser d'autres espèces. Et que c'est tout d'un coup moi qui étais l'objet de cette demande insistante par un animal sauvage et libre qui était maître du jeu.
Oui, sauvage, libre et pas de petite taille, hein, le cachalot. Oh, on n'est pas un peu intimidé quand on nage à côté d'un cachalot ?
Ah, il n'y a pas d'intimidation, parce que les cachalots sont les maîtres de la délicatesse. Ces masses fortes, formidables, sont incroyablement... délicat, ils font des arabesques, ils dansent dans le ciel de l'océan et ils vous caressent à peine lorsqu'ils vous frôlent. C'est formidable. Ils sont tout en attention.
Bon, ça donne envie de plonger avec vous, François Sorano. De votre expérience, de vos plongées, de vos convictions, donc vous avez tiré une déclaration des droits de l'océan, avec d'autres, hein. On peut y lire « La communauté vivante de l'océan a des droits fondamentaux, le droit d'exister, d'être en bonne santé, de prospérer, de se régénérer et d'évoluer. » Est-ce que vous croyez que les dirigeants du monde qui vont se rassembler sont prêts à signer la déclaration des droits de l'océan ?
Je ne sais pas s'ils sont prêts, mais nous demandons qu'elle soit au moins inscrite dans la déclaration de Nice qui va suivre l'ensemble de ce colloque international. Et nous vous demandons d'aller nous aider à appuyer cette demande en allant sur Internet, parce que vous allez chercher change.org droit de l'océan et l'appel qui a déjà été signé par 40 000 personnes doit être soutenu. Aidez-nous, aidez-vous, aidez l'océan.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient vous dire qu'on a déjà bien du mal à faire respecter les droits humains, les droits des hommes, alors les droits de l'océan, pensez si on va y arriver.
C'est pas incompatible, ça se rejoint. Si nous savons respecter l'étoile de mer, j'espère que nous saurons aussi, et encore plus fortement, respecter les lois de nos frères humains.
Qu'est-ce qui vous fait courir et plonger à 71 ans, François Sorano ?
Ma petite fille Ayaté, je veux lui offrir un monde désirable, vivable, heureux. La mer est foisonnante, exubérante, et c'est réjouissant, c'est apaisant, c'est paisible, c'est heureux, c'est plein de bonheur. Je veux partager ce bonheur.
Et de beauté.
Et la beauté, il faut en parler de la beauté, parce que ça ne rentre pas dans les indicateurs, ça ne rentre pas dans nos statistiques, et pourtant c'est quelque chose qui nous apaise. Je veux offrir la beauté à vos petits-enfants, à vos enfants, au monde qui arrive. Alors, cela va aussi aider le droit de nos frères humains.
Merci à vous, François Sorano, pour la beauté des mots. À bientôt.
Merci beaucoup à vous. Merci.